OK, on va continuer notre série sur les disciplines spirituelles pour la piété dans la vie chrétienne. Ce soir, on va prendre un nouvel aspect de notre relation avec la parole de Dieu. Ça va être la discipline de méditer la parole de Dieu. Alors, on va regarder ça sous trois angles différents. La première, ça va être pourquoi méditer la parole de Dieu. La deuxième, qu'est-ce que méditer? Parole de Dieu. Et la troisième, que devons-nous méditer dans la parole et quand? Alors, la méditation de la parole de Dieu, par mes observations personnelles et par ce qu'on lit des auteurs qui parlent du sujet, c'est très certainement l'une des disciplines les plus négligées de nos jours. Certains peuvent se laisser séduire par les formes de méditation qui nous sont proposées par le monde incroyant qui nous entoure, comme la méditation transcendantale, et d'autres formes provenant du mouvement du Nouvel Âge. Cet été, je me promenais dans le parc et il y avait, je sais pas combien, de centaines de personnes en train de faire du yoga, là, avec des personnes qui les appelaient à la méditation. C'est pas ça qu'on parle. On parle de la méditation des Saintes Écritures, la méditation chrétienne. Alors, les Saintes Écritures nous commandent de nous remplir l'esprit des choses divines et des choses des Écritures. Quand on lit, par exemple, dans Philippiens, au chapitre 4, au verset 8, ça dit: Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Alors, comment peut-on que nos pensées, ça occupe nos pensées si c'est pas, si on les nourrit pas de ces choses-là? Alors, pour que nos pensées soient occupées de telles choses, rien de mieux que de méditer la parole de Dieu et aussi de le faire quotidiennement. Je vais vous lire quelques versets. On ne fera pas le tour de tous les versets des Écritures qui nous parlent du commandement de Dieu de méditer. Josué, chapitre 1, verset 8. Alors, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises et c'est alors que tu prospéreras. On ne parle pas ici de la prospérité physique, on parle de la prospérité spirituelle. Il dit que ça ne s'éloigne pas de notre bouche et de le méditer jour et nuit. Ça veut-tu dire qu'il faut mettre notre cadran puis se lever à 3 h du matin pour commencer à méditer? Ou si ça veut dire qu'il faut tellement se remplir l'esprit de la parole que même la nuit, si on se réveille, on va penser à la parole. Autrement dit, on en est tellement plein qu'elle nous remplit littéralement l'esprit jour et nuit. On a aussi Psaume 1, verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, et qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas au banc des moqueurs, mais qui prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit dans sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et dans tout ce qu'il fait, il réussira. Intéressant, au point de vue, ça dit que si tu médites ta parole jour et nuit, tu vas réussir au point de vue spirituel. Il y a un pasteur, moi j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète encore, j'aime beaucoup les puritains, parce que les puritains, c'est des personnes, des chrétiens des années 1600, 1700, qui connaissaient énormément leurs Écritures. Quand tu regardes la moyenne de connaissance des Écritures modernes comparativement à celle des puritains, tu te rends compte. Moi, j'ai déjà souvent entendu le prétexte, Ben, mais les puritains, c'est normal qu'ils connaissaient les Écritures, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet. M'excuse, là. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas autant de médias que nos jours. Mais il y avait autant de moyens de s'éloigner du Seigneur qu'aujourd'hui, là. Trompons-nous pas là-dessus, là. Alors, le pasteur puritain Thomas Watson a fait la remarque suivante sur la raison pour laquelle nous lisons la parole de Dieu et qu'elle nous laisse froid et qu'elle produise si peu d'effet sur notre marche chrétienne. Il dit, je vous dirai pas je l'ai noté en anglais, mais je l'ai traduit. La raison pour laquelle nous ressortons si froid de la lecture de la parole est que nous ne nous réchauffons pas au feu de sa méditation. Intéressant. Parce que Thomas Watson, si vous ne le connaissez pas, il existe des livres de lui qui ont été traduits en français. C'est un auteur excellent. Et c'est un homme qui, quand il écrit sur Dieu, il te fait monter élevé. Et c'est un homme qui connaissait beaucoup les Écritures. Un autre grand pasteur puritain, Thomas Brooke, va dans le même sens en faisant remarquer le lien qui existe entre la méditation de la parole et la croissance spirituelle. Il dit, ceux qui se développent généralement le mieux sont ceux qui méditent le plus. Alors, on va commencer par donner une définition biblique de ce que c'est la méditation. C'est simple. C'est une réflexion profonde sur les vérités et les réalités spirituelles révélées dans les Écritures dans un but de compréhension, d'application et de prière. Les trois sont réunis. La méditation va plus loin que l'écoute, elle va plus loin que la lecture, elle va plus loin que l'étude et elle va plus loin que la mémorisation des Écritures. Tout ce que tu vas lire qui existe qui ont été écrits sur la méditation, ils vont tout dire que c'est hyper important. Si tout le monde dit que c'est hyper important, comment ça se fait qu'on médite si peu? Ça, c'est une bonne question. Le pasteur Whitney, celui qui a écrit le livre Les disciplines spirituelles, dans son livre The Spiritual Disciplines for the Christian Life, fait l'analogie suivante pour nous aider à comprendre. Je la trouve très bonne, son analogie. Il compare la méditation à une tasse de thé. Il dit, le chrétien, c'est la tasse d'eau chaude. Et la poche de thé, c'est l'entrée, en anglais, c'est the intake. C'est l'entrée de la parole dans nos âmes et dans nos vies. Lorsque nous entendons la parole, un peu de sa saveur demeure en nous et ressemble beaucoup au fait de tremper la poche de thé une seule reprise dans l'eau chaude. Quand on l'entend, c'est comme si ça tremblait qu'une fois. L'absorption de la saveur nécessite que la poche de thé soit plongée plusieurs fois dans l'eau chaude. Si tu veux avoir un beau petit liquide brun, là, brun doré, là, alors c'est la même chose pour la parole de Dieu. Il faut qu'elle soit trempée plusieurs fois pour que nous en retirions toute la saveur et tous les bienfaits. La même vérité s'applique pour l'écoute, pour la lecture, pour la mémorisation et pour l'étude. Là, je suis en train, je vous le dis, j'ai commencé à étudier, pas à étudier, à mémoriser l'Apocalypse, parce que je veux la prêcher. J'aimerais ça savoir l'Apocalypse par cœur au complet quand je vais vous la prêcher. C'est mon objectif. Un objectif à long terme. Mais je mets du temps. Mais je me rends compte, quel est le secret pour méditer, pour apprendre la mémorisation? Mémoriser quelque chose, c'est quoi le secret? La répétition. Alors, la même chose, il faut. Alors, on va tomber sur le premier point. Pourquoi méditer la parole de Dieu? Parce que elle forge notre caractère et plus elle forge notre destinée. Il y a un auteur inconnu qui a écrit la phrase suivante. Je me souviens même pas où c'est que j'ai ramassé ça, mais j'ai ramassé ça quelque part, je l'avais noté. C'est très intelligent ce qu'il dit. Surveillez vos pensées parce qu'elles deviennent vos mots. M-O-T-S. Là. Surveillez vos mots parce qu'ils deviennent vos actions. Surveillez vos actions parce qu'elles deviennent vos habitudes. Surveillez vos habitudes parce qu'elles deviennent votre caractère. Surveillez votre caractère parce qu'il devient votre destinée. Je trouve ça intéressant de faire le lien. Quand on entend des phrases comme « Vous êtes ce que vous mangez » ou « Vous êtes ce que vous pensez », il y a beaucoup de vérité là-dedans. Alors, voici un petit test. L'auteur il nous donne une série de questions pour nous dire, on disait alors dans Philippiens 4:8 qu'il faut que nos pensées, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est ci, tout ce qui est ça, il faut que ça soit l'objet de nos pensées. Alors, on va regarder quelques questions, puis on va regarder la manière dont on réagit dans notre vie quotidienne pour savoir si notre vie de pensée est si centrée sur les choses de la parole que ça. Première question, elle sondante un petit peu. Critiquez-vous les autres? Deuxième question. Êtes-vous triste parce que vous ne recevez pas les félicitations et la louange que vous croyez mériter? Troisième question. Combien de temps avez-vous dépensé en vous inquiétant de ceci ou de cela? Parce que les Écritures nous disent « Ne vous inquiétez de rien ». Comment ça se fait qu'à longueur de journée, on s'inquiète? C'est parce qu'on garde nos soucis pour nous, on ne les donne pas à Dieu. Quatrième question. Combien de temps avez-vous dépensé à murmurer ou à vous plaindre de vous-même ou en vous apitoyant sur vous-même? Combien de temps avez-vous dépensé à penser aux émissions de télévision que vous avez surveillées la veille? Sixième question. Combien de temps avez-vous repassé dans vos esprits les choses mauvaises que les autres vous ont fait subir? Il appelle ça du ressentiment. Tu prends des vieilles affaires qu'on t'a faites, puis tu n'arrêtes pas de les ressourcer dans ton esprit continuellement. « Ah ben là, il m'a fait ci, puis elle m'a fait ça, puis elle m'a fait ci, puis tu lâches pas. » Septièmement, vous faites-vous des listes de malheurs que la vie vous apporte dans votre tête? On se plaît jamais, nous autres. Huitièmement, vous permettez-vous de demeurer fâché sur de longues périodes de temps? Neuvièmement, pensez-vous aux mauvaises choses qui arrivent aux personnes avec lesquelles vous êtes fâché ou en conflit? Dixièmement, pensez-vous aux mauvaises choses qui vous arrivent? Onzième question, vous réjouissez-vous du malheur des autres? Douzième question, laissez-vous des pensées impures, de convoitises sexuelles s'installer dans vos esprits? 13e question, vous glorifiez-vous de la position ou des services que vous rendez à l'Église locale? 14e question, vous faites-vous une liste de raisons pour lesquelles vous êtes meilleur que les autres ou que vous vous sentez mieux qualifié que les autres? 15e question, vous faites-vous des listes de raisons pour justifier comment les autres sont déficients par rapport à vous? À la lumière de ce que Dieu a permis que l'on découvre sur nos pensées en examinant ces questions-là. Regardons de nouveau le verset, Philippiens 4:8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont véritables, toutes celles qui sont honnêtes, toutes celles qui sont justes, toutes celles qui sont pures, toutes celles qui sont aimables, toutes celles qui sont de bonne réputation et où il y a quelques vertus et qui sont dignes de louange, que toutes ces choses occupent vos pensées. Ça veut dire que les 15 questions, là, quand on pense à ça, là, c'est pas des choses honnêtes, justes et tout ça. Ça veut dire qu'il y a plein de choses dans notre esprit qui faudrait qu'ils soient changées. Donc, la première question, c'est parce que on a dit, excusez-moi, parce qu'elle forge notre caractère et notre destinée. Pourquoi on doit méditer? La deuxième, c'est parce que notre vie intérieure, qu'on pense, c'est une représentation de notre vrai moi. Le Seigneur Jésus lui-même dit dans Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyez-vous dans un restaurant pour le fun, où, sans vouloir écouter les conversations, vous les entendez des fois. Il m'est déjà arrivé des fois, tu vas dans un restaurant, puis il y a quelqu'un en arrière de toi, tu les écoutes parler. C'est épouvantable. Quand on dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, c'est juste du négatif, quasiment à 100%. Mais si vous êtes à côté d'une table de chrétiens, ça se peut-tu qu'on entende des choses aussi qui ne sont pas dignes de la bouche d'un chrétien? Matthieu 15, verset 18 dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Il y a un verset très intéressant dans Proverbe, au chapitre 27, verset 19. « Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. » Supposons qu'on est en face de quelqu'un, puis que dans notre esprit, on l'écoute, mais qu'on a des mauvaises intentions. La Bible dit que c'est comme un miroir. Ce qu'on pense à l'intérieur, l'autre va s'en rendre compte. Voyez-vous? Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Tu mets le visage au-dessus de l'eau, si l'eau est calme, ça va te réfléchir. Autrement dit, l'idée, c'est que ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Si, même si tu ne dis pas un mot, si tes intentions intérieures et tes pensées intérieures sont mauvaises, l'autre va le ressentir. Il ne te le dira peut-être pas, mais il va le ressentir quand même. Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Matthieu 23, versets 25 à 28, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous, de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Et la troisième raison pour laquelle on se doit de méditer, c'est tout simplement parce que Dieu le commande. Il ne le recommande pas. Il le commande. Ce n'est pas tout à fait la même affaire. Alors, si on ne médite pas, on est en désobéissance. Psaume 19, versets 23 et 24. « Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. » Psaume 119, verset 48. « Je lève mes mains vers les commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. » Psaume 119, verset 78, 97 et 99. « Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur les ordonnances. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Tout le jour. Et le verset 99, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. » Il est plus instruit que ses maîtres, pourquoi? Parce qu'il médite la parole. Il y avait une observation que l'auteur disait, que je trouvais très intéressante. Il dit, Dieu travaille toujours sur nous de l'intérieur vers l'extérieur. Il change ce qu'il y a en dedans et ça finit par se refléter à l'extérieur. Le démon, lui, il travaille exactement le contraire. Lui, il travaille de l'extérieur pour changer l'intérieur. Intéressant comme idée. Deuxième idée qu'on avait dit, donc on a regardé... La deuxième idée, qu'est-ce que méditer la parole de Dieu? Apparemment que ça viendrait du mot « méditari », qui veut dire « donner ses soins ». Alors, les idées suivantes sont véhiculées par le concept de méditation. Soumettre à une longue et profonde réflexion. Deuxièmement, penser longuement, calmement, profondément. Troisièmement, peser dans l'esprit. Quelques synonymes, réfléchir, songer, ruminer, retourner quelque chose dans sa tête. On parle souvent, j'ai souvent entendu l'expérience de la vache. La vache, elle mange de l'herbe, mais elle ne digère pas tout de suite. Elle l'emmène comme dans une poche en arrière de sa bouche. Puis à un moment donné, elle se le ramène dans la bouche et elle mange. Elle mange que ce qu'elle a déjà mangé. Donc, c'est l'idée de la méditation, c'est de prendre la parole, la lire, l'étudier, mais c'est de la remettre dans ton esprit pour la peser, on va vous donner des exemples tantôt. Je pense que je vous l'avais déjà donné, mais je vais vous les redonner encore. Quand on veut méditer, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, c'est faire toutes ces choses-là, mais c'est aussi de chercher comment mettre en pratique et appliquer un texte de la Bible dans ta vie quotidienne. Alors, il y avait une série de 10 questions. On peut se faire une feuille, avoir les 10 questions devant nous chaque fois qu'on lit un texte, et regarder et avoir un cahier. Ce serait une bonne idée quand vous voulez commencer à méditer, d'avoir un cahier. Et d'après le texte que vous avez lu, vous cherchez à répondre aux questions. Et là, ça vous habitue à revenir avec le texte et à le penser d'une façon différente. Première question. Le texte m'apprend-il quelque chose que je dois croire par rapport à Dieu? Ou une nouvelle lumière sur Christ, sur le Saint-Esprit, sur l'homme, sur Satan? Dépendamment du passage, les 10 questions ne s'appliquent pas toujours que tu vas trouver de quoi sur Satan, mais tu vas toujours trouver un aspect ou un autre de ces choses-là. Deuxième question, le texte me rappelle-t-il quelque chose pour lequel je devrais remercier Dieu ou lui adresser des louanges? Tu lis un texte, ça te donne une occasion de remercier Dieu. Donc, la méditation va t'emmener aussi à la prière. Si tu vois quelque chose dans le texte que ça te fait penser que tu devrais remercier Dieu, tu remercies Dieu en même temps. Donc, la prière, la méditation t'amène à la prière. Le troisième, le texte me montre-t-il un ou des péchés à éviter? Quatrième, le texte me révèle-t-il quelque chose sur lequel je dois prier pour moi-même ou pour quelqu'un d'autre? J'ai lu un livre cet été, j'en ai donné une copie à Raymond et à sa femme comme cadeau. C'est justement encore le même auteur, M. Whitney, qui a écrit un livre qui s'appelle « How to pray the scriptures ». Comment prier les Écritures? Lui, il recommande de prendre les psaumes et d'en lire, je me souviens bien, c'est 4 ou 5 par jour. Et tu changes à tous les jours, il va te dire « lis un ». 1, 5, 8, des affaires comme ça. Il va tout te donner la liste de ce que tu devrais faire. Et lis les psaumes, mais dans un esprit de prière. Tu ne fais pas juste le lire pour le lire. Tu le lis parce que tu découvres quelque chose par rapport à Dieu et que ça t'amène à prier Dieu de t'éviter telle chose ou de te donner quelque chose. Cinquième question, le texte me suggère-t-il une nouvelle attitude que je devrais adopter? Oui, ça t'habitue à prendre ton texte et à pas juste le lire. Tu le lis, mais tu le questionnes. tu l'amènes à te donner une réponse. Mais la réponse est dans un but de transformation, de changement. Le sixième, le texte me donne-t-il un exemple d'une décision que je devrais prendre? Septième question, le texte me révèle-t-il quelque chose que je devrais faire pour l'amour du Christ, pour l'amour des autres ou pour l'amour de moi-même? Huitième question, le texte me parle-t-il d'une promesse de Dieu? Je vous en avais déjà parlé, les Écritures, il y a une multitude de promesses que Dieu fait dans les Écritures. Mais quand on les lit, il faut les réclamer. Seigneur, tu as promis telle chose. Tu les réclames. L'autre, le texte me suggère-t-il une bénédiction dont je pourrais jouir? Dixième, le texte me montre-t-il un échec dont je pourrais tirer leçon? Fais ça à chaque fois que tu lis la Bible, là. Prends le temps, puis écris. Tu vas voir que ça va nourrir ton esprit. Plein de choses. Mais là, je n'ai pas fini, j'ai d'autres méthodes. C'est aussi d'approcher le texte dans le but de mieux comprendre, de mieux s'en souvenir et de mieux adorer. Et ce que j'aime, l'auteur prend, il prend un exemple bien précis. Je n'avais un autre à soir, si ça rapportait de vous demander de rester 10 minutes plus longtemps. C'est une vidéo. Chose de slide, là, où il parle de la méditation, mais il nous donne un exemple de la méditation. Je vous la montrerai une autre fois. C'est vraiment extraordinaire parce qu'il prend des exemples très concrets des Écritures pour nous montrer comment on se doit de faire. Qu'est-ce qu'on doit faire si on veut bien méditer la parole? Et lui, il suggère ici une méthode. Il dit, faut que tu prennes le temps, tu prends une phrase, par exemple, tu prends un verset, ça peut être juste un verset, et tu accentues certains mots pour mieux réfléchir dessus. Là, il prend un exemple bien précis. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix. Parce qu'il se confie en toi. Qu'est-ce qu'il veut dire par accentuer des mots? C'est que, disons que tu t'écris ton verset à celui qui est ferme. Disons que le mot ferme, ça te dit de quoi? Tu le soulignes, tu l'accentues. Après ça, dans tes sentiments. Tu assures la paix. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Alors, tu prends une phrase, puis il y a des mots qui te frappent dedans, tu les accentues. Puis après ça, tu dis, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu essaies de faire un lien avec ta situation. Si tu n'as pas la paix, ici, il est en train de te donner une recette pour l'avoir. C'est de même qu'on s'habitue à utiliser la parole. Une autre façon, c'est de paraphraser. Tu reprends le texte, mais tu le dis avec tes propres mots. Par exemple, Ésaïe 26, verset 3, on prend toujours le même verset. Il dit, lui, il l'a paraphrasé, il nous donne l'exemple de comment lui l'a paraphrasé. Il dit, tu promets le repos intérieur libéré de toute anxiété à celui qui axe continuellement ses pensées sur toi et qui te fait entièrement confiance. Voyez-vous, il prend la même idée, mais dit par Dieu. Et tu fais simplement essayer de le reformuler dans tes propres mots. Et souvent, ça t'allume. Troisième technique, comparer le verset avec d'autres passages qui vous montent à l'esprit. Il prend encore Ésaïe 26, 3, et il le compare à Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera la prochaine fois. Amen.